Là, on va essayer de suivre nos notes, hein, parce que ce témoignage nous a quand même posé problème. Comment dire en 30 minutes 37 ans. Donc, c'est pas évident. Alors, donc bonjour à tous. Nous voulons d'abord commencer par un passage biblique. Donc c'est Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, donc tout le monde le connaît normalement. Alors où est-ce qu'il est ? Ça commence mal. Oui, voilà. Donc Éphésiens 2, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Philippe a développé déjà cette chose-là, « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc pourquoi commencer par ce passage ? Parce que, bon, que nous ayons eu 9 enfants ne nous rend pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous sauvés par la grâce. La grâce de Dieu est la même pour tous. Et donc, quelquefois, on nous a dit « Vous êtes bénis ». Ben, certainement, oui, nous sommes bénis. Mais la bénédiction, elle est accordée à tous. Et il suffit simplement de la recevoir. Alors moi, bon, beaucoup me connaissent déjà dans l'Assemblée. Je suis né dans une famille chrétienne aussi, d'une mère qui avait abandonné son travail de secrétaire pour élever ses enfants, et d'un père qui était artiste peintre et qui avait aussi abandonné ses ambitions artistiques pour servir le Seigneur et pour devenir pasteur. Je suis le septième d'une famille de 10 enfants. Donc bien sûr, cet exemple a fortement influencé ma vie et donc notre vie. Et à 13 ans, j'ai demandé à prendre le baptême.
Pour ma part, j'ai bénéficié d'une jeunesse protégée. Mon père aimait la vérité, il l'a trouvée en Jésus. Dans ses recherches, il a rencontré le pasteur Lucien Pira et sa femme Noëlla, qui l'ont accompagné dans la lecture de la Bible. Ma mère était une femme croyante et dévouée à sa famille. Nous étions 6 filles. Enfant, j'ai reçu une éducation catholique, mais à l'âge de 18 ans, après différentes discussions et études bibliques dans le groupe de jeunes de l'église de Lambersart, j'ai décidé de remettre ma vie à Jésus et j'ai pris mon baptême.
Pendant mes études universitaires, j'ai rencontré Muriel dans le cadre des activités de l'Église. Alors bien sûr, je suis tout de suite tombé amoureux d'elle. Nous avons beaucoup parlé de différents sujets. Par exemple, quand nous allions vendre des calendriers, on parlait beaucoup. Et nous nous sommes ensuite fréquentés, puis fiancés. Et pendant notre préparation au mariage, nous avons lu aussi beaucoup. Le frère a parlé de la lecture. Effectivement, nous avons lu et échangé à partir de nos lectures. Et à un moment donné, j'étais à Strasbourg pour mes études et on échangeait par lettres. Donc on échangeait ce que nous avions lu dans la parole de Dieu. Et donc du coup, on était d'accord sur beaucoup de points, ce qui était donc une bonne chose pour envisager le mariage.
Donc, je me suis mariée à l'âge de 21 ans à Étienne, en janvier 1979. Je l'ai suivie à Strasbourg. À l'époque, j'étais employée à la Chambre de métiers d'Alsace. 11 mois après, Jonathan, notre premier fils, naissait. C'est au deuxième enfant, Emmanuel, en 80, et à notre retour dans le Nord, que j'ai arrêté mon travail de sténodactylo. Puis les grossesses et les naissances se sont succédées très rapidement. Clément, en 82, Sylvain, en 83, Timothée, en 84. À 26 ans, nous avions 5 enfants. Puis il y a eu Simon en 87, Dorca en 88, Grace en 91 et 8 ans après, notre petite dernière Lucie en 99. Jeune fille, je n'aurais jamais imaginé cela.
Alors je reviens sur les noms en fait que nous avons choisis, parce que pour nous ça avait une importance, c'était pour nous une signification dans notre vie par rapport à la foi. Donc Jonathan, le premier, c'est l'Éternel a donné, c'est la signification du nom, l'Éternel a donné, donc voilà, nous avons reçu Jonathan comme étant un don de l'Éternel. Ensuite il y a eu Emmanuel, et donc dans Matthieu 1, le petit verset qu'on avait mis sur le faire-part, c'était « Nous lui avons donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Ensuite, Clément, eh bien, nous avons pris dans Philippiens « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Il y avait cette notion du témoignage, de la douceur que nous devons témoigner, et aussi l'attente du retour du Seigneur. Le retour, le Seigneur est proche. Pour Sylvain, c'était dans l'Apocalypse, au chapitre 2, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc la notion qu'à cette époque-là, nous avions reçue, c'était la fidélité au Seigneur et la récompense que le Seigneur accorderait plus tard. Ensuite, avec Timothée, nous avions mis la recommandation, c'est dans 1 Timothée 1,18, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Donc surtout cette notion de ne pas se tromper de combat. Combattre le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi. Ensuite, il y a eu Simon, donc, et nous avions mis le verset, en coupant une certaine partie du verset, nous avions mis « Le Seigneur dit, Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Donc cette notion aussi que le Seigneur prie pour nous, que le Seigneur nous soutient, et c'est un soutien constant. Ensuite, il y a eu Dorcas, donc il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc là, avec Dorcas, c'était la notion de service. La notion de service. Ensuite, il y a eu grâce. Donc c'est par la grâce, et là nous avons changé un peu, nous avons modifié pour dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc ce qui a été développé, c'est tout provient de la grâce de Dieu et non de nous-mêmes. Et ensuite, pour Lucie, hein, comme son nom Lucie, ça veut dire la lumière, donc l'Éternel, nous avions pris « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Dieu nous éclaire et il nous demande aussi bien sûr à notre tour d'être des lumières, mais Dieu est aussi notre salut. Nous n'avons rien à craindre, c'est Dieu qui nous sauve. Voilà donc pour les significations des noms.
Chaque enfant a été reçu comme un don de Dieu et avec bonheur, mais aussi en étant conscient de la responsabilité de la mission que cela représente. Nous l'avons vécu comme un défi à relever en opposition aux idées modernes, et tout doit être mené d'une main de maître. Il faut décider, programmer, assurer sa vie. Avec une famille nombreuse, il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir, mais Dieu a veillé. Nous avons eu parfois des remarques désobligeantes qui montraient la désapprobation. On nous disait « ce n'est pas raisonnable ». Mais Dieu nous a rassurés, et nos pères et nos mères, qui ont été des exemples, nous ont montré la route.
Au sujet des réflexions, mes collègues de travail avaient une idée négative, puisque donc, je suis enseignant et dans l'éducation nationale, là où j'étais, dans le collège où j'étais, bon, il y avait beaucoup de cas sociaux, de familles nombreuses, avec malheureusement, en classe, c'était pas tout à fait ce qu'ils auraient, ils se tenaient mal, etc. Bon, donc l'image, l'idée des familles nombreuses pour mes collègues, c'était vraiment une image très négative. Et donc à chaque fois qu'ils voyaient que je m'étais à faire part pour annoncer la naissance d'un autre enfant, bon, pour eux, c'était pas du tout raisonnable. Hein, et on avait des petites remarques, bon, des petites remarques un petit peu déplacées, hein, sur bon, pour avoir autant d'enfants, etc. Mais aussi des remarques concernant le fait que ce n'était pas raisonnable, que maintenant il fallait assurer l'avenir de ses enfants, donc on ne pouvait pas en avoir beaucoup, etc. Enfin, Tous ceux qui ont des enfants ont entendu ces remarques et on nous prenait aussi un petit peu pour des innocents en quelque sorte. Hein. On ne savait pas comment faire pour ne pas en avoir. Donc une fois dans mon casier, j'ai vu, il y a une collègue qui avait mis dans mon casier plusieurs feuilles sur une méthode soi-disant naturelle pour ne pas avoir d'enfants. Bon, elle était très gentille, cette collègue, très sympathique, mais enfin, bon, voilà, donc c'était une manière de dire, bon, faudrait peut-être arrêter maintenant. Voilà. Donc, pour dire les remarques un petit peu désobligeantes que l'on recevait. Mais donc, en fait, le fait que la famille était mal acceptée, les grandes familles n'étaient pas bien vues, pour nous, c'était comme un défi, justement, un défi. Nous devions montrer que ben, nous pouvions élever nos enfants correctement, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans le sérieux. Et donc notre maison devait être bien bâtie sur le rocher, sur le roc. Donc dans ce passage hein, de Matthieu 13, les deux maisons. Hein, donc c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc c'était vraiment l'idée de fonder notre famille sur ce rocher des siècles qui est Jésus-Christ.
Dans une famille nombreuse, on apprend le partage, le respect de l'autre, chaque enfant est unique, et le renoncement. À propos du partage, les enfants se souviennent encore en souriant d'un partage à la pesée d'une friandise pour être sûr de ne laisser personne. Le renoncement est un peu plus difficile à vivre. Il n'y a pas longtemps, j'entendais un pédopsychiatre qui disait « La frustration, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre oui à toutes les demandes que peut formuler un enfant, contribue à le faire grandir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, effectivement, nous n'avons pas pu répondre à tous leurs souhaits, voyages, appareils high-tech, produits de marque, club de sport. Par la force des choses, ils ont appris à se satisfaire de ce qu'ils avaient et cela leur a servi dans leurs études. » Dans leurs années d'études, car ils ont dû faire avec peu. Les activités de l'Église ont été une priorité dans notre quotidien et ont contribué par la suite à affermir leur foi. C'est dans la prière que Dieu nous a aidés à traverser les moments difficiles, deuil, problèmes de santé, déprime, chagrin, révolte aussi. Cela fait partie du cheminement. Il fallait... Il fallait remotiver, encourager, rectifier. Les discussions faisaient rage. Il fallait remotiver, encourager, rectifier. Je pense que nos enfants se sont librement exprimés. Je me souviens de repas familiaux tumultueux où les discussions faisaient rage. Leur père n'a jamais fui la discussion. Ils sont maintenant... Ils sont maintenant, grâce à Dieu, fidèles au Seigneur, ainsi que leurs conjoints, et engagés là où ils se trouvent. Nous avons beaucoup appris sur la patience et la confiance. Cela nous a fait grandir dans la foi, car sans Dieu, il aurait été difficile de garder la paix et l'espérance.
Finalement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Mais après donc 37 ans de vie commune, ce qui nous paraît capital, c'est que Dieu soit au cœur de la vie du couple déjà. Et tout le reste va en découler. Il y a des choix que l'on fait au début qui sont fondamentaux, et ensuite d'autres choix sont à faire au cours de la vie qui vont orienter un peu la vie, mais les choix que l'on fait au départ sont quand même cruciaux et fondamentaux. Ce qui a orienté notre vie, c'est l'impact de la parole de Dieu sur notre conscience. Quand nous lisons la parole, c'est Dieu qui nous parle. Donc, soit on se rebelle, soit on obéit. L'engagement dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, est à la fois volontaire et en même temps une contrainte. Une nécessité qui s'impose à nous. C'est ce que me fait comprendre la parole de l'apôtre Paul hein, qui dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Donc, cette nécessité de travailler dans l'œuvre du Seigneur, elle s'est imposée à nous. Elle s'est imposée donc à notre famille. Et on ne peut pas nier qu'au cours de toutes ces années, il y a eu beaucoup de contraintes. De contraintes pour pouvoir justement participer à la vie de l'Église régulièrement, et aussi les contraintes de chaque enfant, etc. Mais finalement, pour notre bien, hein, ces contraintes, c'était pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Ensuite, tout le travail, tout le monde sait que c'est du travail, bien entendu, tout le travail occasionné par la famille nombreuse, nous avons dû le faire. C'est indéniable, il a bien fallu le faire. Si nous avions voulu donner le travail à d'autres, ils nous en auraient fait le reproche en disant « il ne fallait pas faire autant d'enfants hein. ». Vous savez, les reproches sont vite lancés, hein. Et en même temps, si nous avons pu le faire, c'est avec le secours du Seigneur. C'est avec le secours de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Tout ce que nous avons fait, en fait, finalement, nous l'avons reçu du Seigneur. C'est par son aide, son secours. Donc, on ne peut pas s'en glorifier. Tout est don de Dieu. Moi, qui suis si souvent timide, c'est dans notre nature, malheureusement, Muriel et moi, on est comme ça, on s'est bien accordés. Et voilà, tout le monde nous connaît, on est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et nos enfants, malheureusement, ils en ont un peu hérité aussi de notre caractère. Et c'est comme ça, si souvent timide. Hein. Mais finalement, Dieu m'a permis d'élever... et d'enseigner 9 enfants, et dont 6 garçons en premier. On dit souvent que les garçons, c'est pas facile, mais bon, c'est le Seigneur qui m'a permis, hein. Je peux pas dire autrement. Une chose que le Seigneur nous a enseigné aussi, c'est que l'amour ne se divise pas, mais l'amour se multiplie. Donc à chaque fois qu'il y avait un enfant de plus, c'est pas que l'amour allait se diviser, non, l'amour se multiplie. Et ça, on l'a appris. C'est en vivant avec le Seigneur que nous l'avons appris.
Maintenant, nos enfants sont adultes. Ils ont pour certains des enfants, ils traversent des épreuves et connaissent des joies. Et notre travail n'est pas fini, même s'il faut respecter leur autonomie. Nous prions toujours pour chacun d'eux, enfants, beaux-enfants et petits-enfants. Je remercie Dieu de m'avoir guidée vers le choix de mon époux, qui est un bon père et qui m'a toujours soutenue, et le choix de vie que nous avons eu ensemble sur les traces de Jésus. Je remercie Dieu pour nos parents, pour nos proches, nos amis, qui nous ont aidés dans notre cheminement. Je remercie Dieu pour les enfants qu'il nous a confiés. Par eux, nous avons réalisé que Dieu nous aime d'un amour beaucoup plus grand, car Jésus dit dans Matthieu, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?»
Moi aussi, je veux remercier Dieu et je veux remercier le Seigneur Jésus pour l'épouse qu'il m'a donnée. Si elle dit que j'ai été un bon père, c'est d'abord parce qu'elle a été une bonne épouse et une bonne mère, qui était toujours attentionnée pour son mari, pour moi et pour ses enfants. Donc je n'aurais certainement pas été comme ça si elle n'avait pas été comme ça. Donc c'est... On se complète, hein, c'est un aller-retour permanent entre nous deux, et entre nous et nos enfants. La manifestation de l'amour de Dieu, de la confiance, que nous devons d'ailleurs toujours veiller à maintenir. Donc pour conclure, comme notre travail n'est pas encore terminé, Nous voulons lire dans les Lamentations de Jérémie.
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande.
Alors ça, c'est ce que nous avons décidé de dire, mais bien sûr, il y avait toutes ces questions qu'on nous avait envoyées. Alors donc on s'est dit, bon, on va essayer de répondre aux questions. Comme ça, vous ne les poserez pas après. Enfin, mais vous, si vous en avez encore, vous les poserez. Hein, mais... Alors...
Allez, question. Comment vous vous êtes appuyé sur les promesses de Dieu, ce que vous avez trouvé dans l'Écriture comme motivation pour fonder votre foyer et voir la famille s'élargir?
Alors, premièrement, concernant les enfants, donc Dieu dit dans la Genèse à Adam et Ève, et ensuite il le reconfirme à Noé, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » C'est donc un ordre de Dieu. Donc, même si on voit dans la parole de Dieu, comme l'a signalé Philippe tout à l'heure, tous n'ont pas eu des familles nombreuses, hein, comme Abraham par exemple et bien d'autres, on est dans la volonté de Dieu en acceptant la vie. On ne peut pas refuser la vie. Donc nous avons accepté les enfants que Dieu nous donnait. Ève avait dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Nous ne pouvions pas, au fur et à mesure des grossesses, refuser l'héritage que l'Éternel nous donnait. Hein, ce qui est écrit dans le psaume 127. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Donc justement, comme je parlais tout à l'heure des critiques des collègues, etc., ce verset pour moi me rassurait, vraiment m'affirmait qu'on était dans la volonté de Dieu simplement. Et face aux inquiétudes justement que suscitait l'agrandissement de la famille, dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans Matthieu 6, 34, donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, pour n'en citer que deux, bien sûr, parce qu'on pourrait en citer bien d'autres. Et bien sûr, tout au long de cette vie, tous ces passages qui nous rassuraient, qui nous disaient que Dieu est avec nous, il nous a inspiré différents chants, hein, un jour à la fois, ne crains pas, etc. Et le dernier... J'ai prié pour toi. Donc, ce sont tous les chants qui ont été inspirés par nos lectures, dans nos questionnements aussi.
Question 2. Comment vous avez établi la présence de Dieu au sein de votre famille? Par quelle discipline spirituelle?
Alors, donc, ça a été cité aussi tout à l'heure. Hein, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas. L'enseignement, comme l'a dit Philippe, je pense que c'est pareil, l'enseignement s'est fait au fil de la vie, donc selon leur âge. Quand ils étaient petits, par des petits chants chrétiens que nous chantions, que Muriel leur chantait en prenant leur bain, etc. La prière au repas, la prière au soir, et aussi en répondant à leurs inquiétudes. Puis ensuite, par les activités de l'Église pour la jeunesse, il y avait l'école du mercredi, il y avait l'école du dimanche, dimanche après-midi. Ensuite, la chorale que je dirigeais avec les enfants et les adolescents, à un moment donné. Un peu plus tard, il y a eu le club de jeunes, l'étude biblique. À partir d'un certain âge, je les emmenais avec moi à l'étude biblique. Ensuite, il y a eu la réunion de prière, aussi à notre âge, c'était aussi venir à la prière. Donc bien sûr, sans oublier le culte et les réunions d'évangélisation qu'il y avait aussi à cette époque-là régulièrement. Et pendant l'été, il y avait la colonie de l'église qui durait 3 semaines et que nous faisions aussi avec eux jusqu'à la naissance de Lucie. Ensuite, il y avait toutes les discussions avec les enfants à propos des cours, justement, qu'ils avaient à l'école. Les études bibliques ou d'autres sujets aussi qui venaient, c'était toujours l'occasion d'avoir des discussions et de replacer, soit de replacer les choses dans l'optique biblique, justement, par rapport aux cours qu'ils recevaient, ou soit d'essayer d'expliquer ce qu'ils n'avaient pas compris à la réunion ou à l'étude. Donc ça a amené beaucoup de discussions, comme Muriel l'a dit tout à l'heure, quelquefois des discussions un petit peu animées à table. Bon, et les règles de vie, bon, dans la maison, ben, c'était d'abord l'honnêteté, pas de grossièreté, hein, pas de mensonge. Et Dieu qui passe en premier, d'abord, et le service de l'Église, hein, donc une mise en pratique simplement de la parole de Dieu. Aussi, comme règle de vie, ben, une vie dans la simplicité. Une vie dans la simplicité sans mondanité. Après, ne pas avoir des comportements différents à l'église et à la maison. Bon, si Dieu est avec nous, si nous vivons avec Dieu, nous vivons partout où nous sommes, nous vivons de la même manière, il n'y a pas de façon de vivre. Nous vivons dans la vérité. Voilà.
Alors, la question 3, quelle bénédiction Dieu vous a-t-il accordée?
Bon, ben, comme on l'a dit... Occupez-vous premièrement du royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, effectivement, le Seigneur a répondu à nos besoins matériels. Hein, il m'a donné un travail stable et il nous a donné un logement correct qui, en plus, n'était pas loin de l'église puisque nous venions souvent à l'église, donc n'était pas loin. Ensuite, toute la protection qu'il a accordée à nos enfants, hein, parce que nos enfants, on les a surveillés beaucoup. Hein, Muriel sait que quand on partait quelque part en vacances ou dans la montagne, j'étais toujours en train de les compter, hein, régulièrement, pour savoir si... Donc j'ai toujours été craintif. Donc la protection du Seigneur, vraiment, elle a été effective. Hein. Ça, c'est une chose importante aussi. Parce que quelquefois, ils sont sans notre surveillance, parfois. Hein, donc, comme bénédiction, on peut dire aussi que nos enfants ont été obéissants. C'est quand même aussi une chose, il n'y a pas eu de rebelles, hein. Je veux dire, ils sont restés quand même obéissants. Alors, ils ont fait leur travail scolaire sérieusement, ils ont passé les examens, les concours, hein. Comme on disait, ce n'est pas la priorité, mais enfin ils l'ont fait, le Seigneur les a bénis. Par contre, justement, je rejoins ce que Philippe a dit, ce qui est essentiel pour nous, ce qui était vraiment essentiel, et qui nous rassure maintenant encore, c'est qu'ils ont tous accepté le Seigneur. Et ils ont tous demandé leur baptême quand ils l'ont voulu. Hein? Et ça, comme appui à cette chose-là, je lirai dans Jean 6, 65. Et il ajouta, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est Dieu qui attire, hein? C'est Dieu qui les a attirés à lui et ils sont venus au Seigneur. Et pour l'instant, il y en a 6 qui sont mariés et qui ont trouvé donc un conjoint chrétien qui est dans la même foi et ils peuvent vivre leur foi ensemble dans les différentes églises. Et ils ont tous une vie qui honore le Seigneur. Donc pour nous, c'est vraiment une grosse bénédiction. Le Seigneur nous permet de voir les enfants de nos enfants aussi, ce qui est une bénédiction. Hein, c'est tu verras les enfants de tes enfants. Donc actuellement, il y en a 14 petits-enfants, donc c'est une bénédiction aussi.
Quatrième question, comment conceviez-vous la relation entre la vie de votre famille et la vie de l'Église?
Ce qui est prioritaire, c'est que c'est Dieu qui est en premier. Et son œuvre, donc l'œuvre de Dieu au sein de l'Église locale. Dans la majorité des cas... Quand il y avait un conflit entre deux activités, c'était l'Église qui passait en priorité. Donc dans Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc nos enfants ont suivi notre engagement. On les a entraînés avec nous. Alors on ne peut pas imposer quelque chose que l'on ne fait pas soi-même. C'est pas possible. Donc, si on juge que pour nous c'est important, ben, on emmène nos enfants avec. On ne peut pas faire autrement que d'emmener nos enfants avec. Alors, il y a eu parfois, bien sûr, des réticences, hein, des résistances. Mais finalement, ils se sont laissés convaincre. Et l'autre jour, on parlait avec un de nos fils qui nous a dit que il regrettait pas. Et finalement, il ne regrette pas la vie qu'ils ont eue, d'avoir été un peu quelquefois contraints et obligés. Tous, finalement, sont engagés. Ils ont compris ce que ça voulait dire être engagé. Par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que nous avons cherché à tenir compte de leurs impératifs scolaires principalement. Par exemple, à la fin des réunions, on ne traînait pas dans l'église. Quand on savait qu'ils avaient encore des devoirs à faire, on ne traînait pas, on disait on rentre. Il faut tenir compte de leurs impératifs. Et de mon côté aussi, quand je savais que Muriel était seule à la maison avec tous les enfants qu'elle devait, surtout quand ils étaient tout petits, là, je savais qu'elle était seule, donc c'est pareil, à la fin de la réunion, je rentrais le plus vite possible. Donc ça, je pense que c'est important de tenir compte des impératifs aussi des enfants. Et une notion que j'avais eue et dont on a reparlé à l'étude biblique l'autre jour aussi, c'est que être dans l'Église, c'est être comme Noé dans l'arche. L'Église, c'est l'arche. Donc nous souhaitions que nos enfants soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils soient avec nous dans l'arche, sur un plan spirituel, bien entendu. Hein.
Avez-vous rencontré des difficultés particulières ? Circonstances contraires, faiblesses personnelles, regard des autres ? Comment les avez-vous surmontés ?
Bon, bien sûr, il y a eu des accidents et des maladies. Tout le monde en a au cours de la vie. Hein, ça atteint tout le monde. Donc, Jonathan, une fois, est arrivé. Enfin, on a vu arriver quelqu'un qui avait pris Jonathan dans sa voiture parce qu'il était tombé de vélo, puis il avait le bras cassé. Et le bras, il partait d'un côté. Donc, il a fallu qu'on aille à l'hôpital. Ensuite, je faisais l'émission avec Jean et mon père à l'émission de radio, donc le samedi matin, et en allant à l'émission de radio, il y avait du verglas. J'ai perdu le contrôle de la voiture, et puis la voiture s'est retournée. Donc accident. Et là, vraiment, le Seigneur m'a secouru parce que je n'ai pas été blessé du tout, j'ai rien eu. Donc c'est vraiment une bénédiction aussi du Seigneur. Ensuite, il y a eu la maladie de Simon, quand il avait 4 mois. Donc, il a été opéré 2 fois du rein, qui ne s'écoulait pas normalement. Et le Seigneur a permis qu'il garde ses 2 reins. Donc, aussi, c'est une épreuve, mais qui a été suivie d'actes de louange de notre part. Alors, ce que je peux dire, comme vous le constatez, c'est qu'en fait, on s'est toujours senti faible. On s'est toujours senti faible, incapable, incompétent, c'est comme ça, c'est dans notre nature. Ayant besoin de se soutenir mutuellement, chacun notre tour, et trouvant dans notre lecture personnelle et partagée, trouvant des passages bibliques qui nous remontaient le moral. Donc je vais en prendre 2 peut-être, pour faire trop long. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. C'est un encouragement pour nous. Je ne vais pas tout citer parce que ça durera encore. Bon, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, il y aurait beaucoup de choses à citer encore. Il y avait des feuillets de calendrier qui tombaient à pic, etc. La parole de Dieu, elle est vivante. Et vraiment, elle parle à nos cœurs. Et c'est ça qui nous a rassurés. Donc, bien sûr, après, la famille s'élargit. Il y a les petits-enfants aussi qui rentrent dans nos pensées et qui sont parfois malades. Il y a notre belle-fille récemment qui a attrapé ce cancer. Donc, ce sont des épreuves qui nous poussent à crier vers le Seigneur.
Alors, quelle évolution avec l'âge des enfants ?
Alors, les enfants ont dû partir pour leurs études, vers l'âge de 20 ans. Alors, ça a été pour eux l'occasion de prendre une certaine indépendance, on va dire, et enfin, en même temps de faire et de confirmer leur choix de suivre le Seigneur. Pour eux, ça a été vraiment le moment où ils ont pu confirmer, bien qu'ils avaient déjà certains pris leurs engagements, mais ça a confirmé. Alors, bon, là, je parle à la place de Muriel, mais pour une mère qui a consacré toute sa vie à sa famille, c'est un grand vide. C'est un grand vide de ne pas pouvoir les voir régulièrement à cause de leur éloignement géographique. Mais régulièrement, le Seigneur nous console quand nous savons qu'ils sont utiles là où ils sont et qu'ils sont appréciés dans l'œuvre, dans les églises où ils se sont engagés maintenant. Donc ça, c'est pour nous quand même une grosse consolation.
Alors, quelle intégration dans le tissu social ?
Bon, l'intégration dans le tissu social, on ne comprenait pas tout à fait ce que vous vouliez dire, mais enfin bon, on a vécu selon les règles de notre société. Nous sommes français et nous avons vécu selon les règles de la société française, c'est tout. On a vécu, ben, les enfants sont allés à l'école, au collège, au lycée, ils ont fait des études supérieures. Donc on a été confrontés donc, à des idées différentes. Nous avons eu une vie simple en relation avec les autres, c'est tout. J'ai eu un travail à assumer, donc la vie de tout le monde, quoi, en fait. Mais Jésus dit dans la prière sacerdotale, justement, en Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Donc voilà, nous avons vécu dans la société en demandant au Seigneur de nous préserver du mal et d'éclairer nos enfants dans la vérité, c'est tout.
Et si c'était à refaire ?
Si c'était à refaire, quoi, dans le même contexte ? Parce qu'on a vécu quand même dans un contexte particulier, hein, avec des parents qui avaient abandonné pour servir le Seigneur. On était à l'œuvre, moi j'étais à l'œuvre de ma jeunesse avec mes parents. Ce contexte-là nous a marqué, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on avait vécu dans un autre contexte, si au lieu de revenir, à un moment donné, on était en Alsace, si au lieu de revenir dans le Nord, on était resté en Alsace, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais c'est difficile de... À partir du moment où on pense et que l'on croit que le Seigneur a guidé notre vie, il est difficile d'imaginer faire autrement. Hein, c'est le Seigneur qui nous a dirigés. On ne peut pas nous imaginer maintenant sans les enfants que le Seigneur nous a donnés. Hein, donc, comment faire autrement ? Donc, pour tout ce que nous avons fait et que nous faisons, nous demandons tout le temps l'aide du Seigneur. On ne peut pas donc imaginer que notre vie se soit passée autrement. Alors, on peut toujours regretter les erreurs, les petites erreurs qu'on a faites, les énervements, les manques de patience, etc. En tout cas, en ce qui concerne le déroulement global, on va dire le déroulement global de notre vie, nous ne regrettons rien et nous rendons grâce à Dieu. C'est d'ailleurs une phrase que je dis souvent, et je le pense vraiment, quand on nous félicite, ou voilà, on nous complimente, bon, moi je dis, c'est par la grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu, voilà. Donc, que son amour et son nom soient glorifiés, tout simplement. Alors, on va essayer de chanter une chanson. Une chanson, puisque j'ai dit qu'il y avait beaucoup de chansons qui nous avaient été inspirées par notre vie. On va essayer de chanter une chanson que nous avons chantée donc, au dernier mariage, pendant l'été, là, le mariage de Simon. Demander à Grâce de venir chanter avec nous parce que...
Ils étaient un peu plus nombreux pour la chanter au mariage, mais enfin, on va en bénéficier quand même.
Jusqu'à ta vieillesse. prier pour toi, pour que tu gardes la